le monde dans lequel on vit, les planètes du système solaire, le système solaire lui-même. C'est un événement qui n'est pas propre au système solaire, il doit exister un peu partout dans l'univers. C'est à la fois un processus créateur, mais c'est aussi un processus qui détruit et qui nous détruira peut-être, on ne sait pas quand, mais peut-être un jour. Donc l'idée, c'est de vous donner un fil directeur des origines aux catastrophes. Et pour commencer, un petit peu d'histoire, c'est un phénomène que l'on sent historiquement. Le 30 juin 1908, en Sibérie, une énorme explosion dévaste plusieurs centaines de kilomètres carrés. Cette explosion est ressentie à plus de 1000 km de distance. Elle détruit toute une forêt, dont vous avez ici des photos de l'époque. En 1908, on est à un lieu qui s'appelle Tunguska. Et il y a très peu d'habitants dans cette région, il y aura très peu de victimes, mais le désastre sera répertorié sur des centaines de kilomètres carrés. Comme on aime les Anglais, on a représenté ça à l'échelle de Londres. Donc, si cette explosion d'un astéroïde, parce qu'il s'agit d'un astéroïde, s'était produit au-dessus de la région londonienne, je pense qu'on n'aurait plus du tout Londres sur la carte actuelle du monde. Donc, c'est un événement qui s'est passé dans un lieu complètement reculé, complètement désertique, qui a eu un impact significatif et qui a été vécu et qui est enregistré, bien sûr, dans la mémoire historique. Plus près de nous, en 1993, deux astronomes, Schumacher et Levy, remarquent une comète, comme on en remarque plein d'autres. Est-ce qu'on pourrait couper cette lumière-là? Non, on ne peut pas. Non. Parce que là, je ne vois plus rien, moi. Cette comète est repérée, c'est une comète comme on en voit des dizaines tous les ans voyager dans le système solaire. Seulement, en la suivant, comme le font les astronomes, en janvier 1994, à peu près une année plus tard, on se rend compte que cette comète se fragmente en plusieurs morceaux de plusieurs kilomètres de diamètre. Et inexorablement, on observe que la trajectoire de cet astéroïde, de cette comète, va croiser celle de la planète Jupiter. Et on avait anticipé ce choc un an avant en repérant correctement la trajectoire de cette comète fragmentée et la trajectoire autour du Soleil de Jupiter. Et donc, on a prévu la date de ce choc, choc qu'on a vu en direct, un choc en direct dans le système solaire. Alors, ça, c'est une image animée qui vous montre l'impact d'un de ces fragments dans l'atmosphère de Jupiter. Jupiter, c'est énorme, hein, la Terre, c'est pratiquement la taille, c'est de l'ordre de la taille de cette tâche, hein, ou de, vous voyez. Donc, on voit un impact qui couvre une surface, ou qui affecte une surface importante de l'atmosphère de Jupiter. Nous sommes en juillet 1994. Ici, une image arrêtée où on voit dans l'atmosphère de Jupiter les traces de ces impacts successifs, de ce chapelet de roches qui rentre en collision avec une planète. Et puis ici, on voit un phénomène de cicatrisation qui va prendre plusieurs mois en tout cas, pour retrouver la structure initiale de la planète gazeuse qui est Jupiter. Donc un autre choc indirect. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a une image prise par un amateur où on voit une traînée blanche dans l'atmosphère. Ça, c'est un autre choc de plus petite ampleur. On est au Canada, au bord d'un lac, mais à l'époque, c'était en hiver. Je n'ai trouvé qu'une photo du lac en été. C'est le lac de Tagish, au Canada. On voit ici à quoi correspond cette traînée dans l'atmosphère. C'est la pénétration dans notre atmosphère d'un bloc extraterrestre de roches qui vient probablement de la ceinture d'astéroïdes et qui tombe à la surface. Il y en a eu des centaines de fragments comme ça qui sont rentrés ce jour-là dans notre atmosphère. Il en tombe tous les ans 50 000 tonnes à peu près, sous forme de poussière de quelques micromètres jusqu'à des blocs de quelques mètres ou de quelques dizaines de centimètres. Donc tout ça, c'est la perception actuelle que nous avons des chocs. Si on remonte maintenant dans le système, si on observe notre système solaire, ce phénomène de choc, on va en trouver des traces sur pratiquement toutes les planètes, que l'on va visiter maintenant les unes après les autres, sous la forme de cratères. Ici, vous avez Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Vous voyez, toutes ces structures circulaires sont les cicatrices de phénomènes d'impact. Ici, vous voyez que ces cratères ont plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de kilomètres de taille et sont donc des cicatrices d'impact violent à la surface de ces planètes. Ici, Vénus. Vénus, c'est une planète qu'on ne peut regarder que par radar parce qu'elle a une très forte atmosphère, très épaisse. On y trouve bien sûr des volcans, mais aussi ces structures circulaires qui sont les cicatrices d'impacts violents à la surface de cette planète. Ici, c'est une image de la Terre. Manicouagan, je pense que c'est au Canada, mais je ne sais plus exactement dans quelle région du Canada. Pardon ? C'est au Québec. Non, mais c'était juste pour qu'ils réagissent. Voilà. Donc, c'est vrai. Donc, cette structure circulaire est aussi, elle est énorme, hein, ça c'est plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de diamètre, c'est aussi la trace d'un impact qui a eu lieu il y a plusieurs centaines de millions d'années dans cette région. Elle est complètement érodée parce que la Terre est une planète active, donc on a beaucoup plus de mal à retrouver ces cicatrices de choc. On continue, Mars, évidemment, j'y reviendrai tout à l'heure, on retrouve aussi toutes ces structures circulaires qui marquent ces chocs. Ici, un astéroïde, je suis désolé, je crois que l'animation ne marche pas, mais j'avais une animation. C'est Eros, qui est un astéroïde qu'on a visité de près avec une sonde, qui est aussi truffé de ces petites structures circulaires qui marquent les chocs. Bien sûr, on les retrouve difficilement dans les planètes gazeuses, parce que les planètes gazeuses, comme c'est un gaz, ça se reconstruit derrière, donc on ne voit plus la trace dans la partie gazeuse. En revanche, les satellites de glace solides qui sont autour de Jupiter ou de Saturne, sont aussi criblés de ces structures circulaires qui traduisent des impacts violents à leur surface. Donc on voit ici Ganymède, ici les satellites de glace de Saturne. Un petit peu de physique du choc, je ne vais pas faire beaucoup de physique, mais c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur du phénomène. Alors ça c'est une photo historique, c'est une photo qui a été faite par Ernst Mach, qui a mesuré qui a imagé ici le passage d'une onde de choc. Donc, par exemple, un avion qui vole plus vite que la vitesse du son dans le milieu crée une onde de choc. C'est le bang que vous entendez quand un avion se déplace à vitesse supersonique. Donc, on a ce phénomène de propagation supersonique. Et bien, dans les chocs que l'on va avoir à la surface des planètes, quand ils sont suffisamment violents, on va avoir un phénomène supersonique qui va se propager dans la matière solide et qui va transformer cette matière solide. Et je vous propose de très rapidement de faire le tour de ce petit problème. Tout d'abord, alors, je ne sais pas si vous comprenez ce schéma. Ici, on a la surface d'une planète, ça peut être la Terre. Vous avez un projectile qui arrive, vous voyez que le projectile est petit. On ne lui donne pas une taille, mais il est petit par rapport aux dégâts qu'il va créer. Donc, il va rentrer avec une vitesse. Alors, les vitesses, vous verrez tout à l'heure, c'est 10 km par seconde dans le système solaire, l'ordre de grandeur. Donc, c'est une vitesse extrêmement rapide. Donc, top, j'ai traversé tout Lyon. D'accord ? Donc c'est à peu près ça la vitesse d'un astéroïde. Vous voyez que ce phénomène il correspond à la destruction complète de l'astéroïde et tout un phénomène de propagation d'une onde de choc qui va progressivement transformer la matière qu'elle rencontre. Au début, elle va vaporiser complètement la matière, puis au fur et à mesure que l'onde s'atténue en rentrant dans le milieu, elle va créer un front de déformation dans la matière. Et ce qu'il est important de regarder ici, c'est que c'est vraiment un dépôt d'énergie violent qu'on fait. Et vous voyez que, en gros, on va avoir un rapport de 10 entre la taille du trou final et la taille de l'astéroïde. Un astéroïde d'un kilomètre fera un trou de 10 km. Et la profondeur, elle est aussi proportionnelle à la taille de l'impacteur, du projectile. Et donc, le trou sera beaucoup plus profond que ne l'est l'impacteur. Et donc, on va essayer de regarder quels sont les ordres de grandeur de ces phénomènes physiques. Alors, une onde de choc, c'est quoi ? Avant toute chose, c'est un front qui se déplace ici et qui va comprimer la matière. Donc, je ne sais pas si vous voyez la symbolique. Ici, j'ai mis un hachuré plus lâche que de ce côté-là. Ce qui veut dire que quand l'onde de choc passe, elle comprime le matériau, elle augmente sa densité, elle augmente sa pression. Donc, la propagation ici, le milieu n'est pas comprimé. Sa pression est égale à la pression ambiante. Il a une certaine énergie. L'onde va passer. Elle va déposer de l'énergie dans le matériau, elle va augmenter sa pression, elle va augmenter sa densité. Alors les formules sont, pas besoin de les apprendre. Le plus important est de savoir qu'il existe une relation qui lie la vitesse du phénomène, la vitesse de propagation de l'onde de choc, ou la vitesse de déplacement des particules lors de du passage de l'onde de choc, avec la pression. Donc vous sentez bien que plus vous tapez fort sur une table, plus vous allez transmettre de l'énergie. Eh bien, quand un astéroïde arrive au contact d'une planète, plus sa vitesse sera importante, plus la pression au point d'impact sera élevée. Pour vous donner des ordres de grandeur, ça, il n'y a pas besoin d'apprendre, si vous prenez un astéroïde qui tape la surface de la Terre à 2,4 km par seconde, qui n'est pas très rapide, hein, on peut avoir des vitesses jusqu'à 50 km par seconde d'impact. La pression au point d'impact, c'est 250 000 fois la pression atmosphérique. Donc il faut imaginer ce que c'est que 250 000 fois la pression atmosphérique. C'est la pression que vous auriez si vous aviez 700 km de roche sur vos épaules. Si vous avez une vitesse de croisement de choc d'impact de 5,3 km seconde, c'est comme si vous aviez 1600 km de roche sur vos épaules. Voilà ce que l'énergie, voilà comment ce dépôt d'énergie au moment d'un choc se traduit en termes de pression. Le deuxième point important, c'est qu'un choc, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Ça va durer. Alors, si je fais tomber une bille par terre, le choc, il va pas durer très, très longtemps. En revanche, quand j'ai un astéroïde qui fait quelques kilomètres de taille, ça va durer un certain temps. Et ce temps pendant lequel la pression va être élevée, en fait, il dépend tout simplement de la taille du bolide divisé par sa vitesse. Et, par exemple, un impacteur qui fait 10 km de diamètre, qui arrive à 10 km par seconde, le choc va durer une seconde, en gros. Pendant une seconde, vous allez avoir en permanence un régime de très très haute pression, et c'est cette haute pression, et l'énergie qui lui correspond, qui va modifier les roches qui sont percutées par cet impacteur. Donc la durée du pic de pression donne la taille de l'impacteur, je m'en servirai tout à l'heure. On dit élévation de pression dans un choc, et qui dit élévation de pression dit transformation de la matière. L'idée est d'essayer, par exemple si vous allez à Manicouagan, on ne va pas retrouver toutes les structures, on ne va pas pouvoir remonter à l'intensité du choc. Et vous avez vu que l'intensité du choc, la pression du choc, la durée du choc, eh bien, il faut que je les retrouve autrement. Et la manière que l'on a trouvé de chercher ces traces de transformation liées à l'impact, c'est d'aller regarder les minéraux. Et le plus bel exemple que je connaisse, sur lequel j'ai eu la chance de travailler, c'est un cratère qui se trouve en Allemagne, qui est le cratère du Ries, qui est un cratère qui a 15 millions d'années, donc une structure circulaire de quelques kilomètres, qui correspond à l'impact d'un astéroïde à la surface du sol, ici en Allemagne. Cet astéroïde est tombé sur des roches classiques, des granites ou des gneiss, comme vous en trouveriez dans les monts du Lyonnais, qui contiennent, quand on est loin du choc, loin de l'impact, à quelques dizaines de kilomètres, du graphite, c'est-à-dire du carbone, comme dans les anciens crayons à papier. Le graphite, comme vous le savez, c'est du carbone pur. Le passage de l'onde de choc se traduit dans ces roches, quand on va les regarder dans le cratère, ou aux abords du cratère, par non plus du graphite, le graphite a disparu, et il a été transformé en diamant. Donc vous trouvez les cicatrices du choc dans les roches par la création de petits cristaux, ils ne sont pas très gros, 200 micromètres, ce n'est pas des très gros diamants, mais l'augmentation de pression et de température pendant le passage de l'onde de choc transforme le graphite en diamant. Voici nos indicateurs. Et à partir de cela, connaissant alors un petit peu de diagramme de phase, les conditions de pression et de température dans lesquelles le diamant est stable. Le diamant n'est pas stable partout, à toutes les conditions de pression et de température. Si vous prenez un diamant, vous le chauffez, là, il se transforme en graphite. On voit que, en particulier au passage d'une onde de choc, le diamant se forme pour des pressions de 30 000 fois la pression atmosphérique. Donc ici, vous retrouvez la pression. Si vous retrouvez la pression, vous retrouvez l'énergie qui a été déposée pendant l'impact, et vous pouvez revoir ou refaire le film à l'envers de l'histoire de l'impact. J'illustrerai ça tout à l'heure avec un peu plus de détails sur un autre exemple. Pour normer un tout petit peu ce dépôt d'énergie violent, on peut le normer par rapport à des choses que l'on peut comprendre. Un kilomètre, un impact de 500 mètres de diamètre du cratère, donc un corps qui fait 50 mètres, ça correspond, un astéroïde de 50 mètres qui tape la surface de la Terre, à une vitesse de l'ordre de 5 km par seconde, ça correspond à peu près à l'énergie libérée par Hiroshima, par quelques dizaines de kilotonnes de TNT. Un diamètre de cratère d'un kilomètre, donc un astéroïde d'une centaine de mètres, c'est la production annuelle d'une centrale nucléaire. Un cratère de 10 km de diamètre, donc un astéroïde d'un kilomètre de diamètre environ, c'est la consommation énergétique mondiale annuelle. Pour un astéroïde de l'ordre de 800 km, ça correspond à toute l'énergie qu'il faudrait fournir, à toute la chaleur qu'il faudrait fournir pour fondre toute la calotte polaire antarctique. Donc ça vous donne à peu près les échelles de grandeur de l'énergie mise en jeu pendant ces impacts. Un aspect suivant, c'est de dire, une fois qu'on a regardé cela, de voir comment on utilise scientifiquement ces cratères. Parce que ces cratères, comme vous le sentez maintenant, ils traduisent un phénomène qui a participé à l'élaboration des planètes. Et les chocs, on le verra dans quelques instants, sont le mécanisme intime de construction du système solaire. Le premier indice qui a permis aux gens de vraiment comprendre le processus de formation des planètes, ça a été de regarder sur la Lune la densité des cratères. Sur la Lune, il y a une première particularité que vous pouvez voir avec une bonne lunette astronomique ou même une bonne paire de jumelles, c'est qu'il y a des zones où vous avez beaucoup de cratères, de grande taille souvent. Puis vous avez des zones, en particulier mer lunaire, ces grandes plages très sombres que l'on voit sur la Lune, dans lesquelles il y a très peu de cratères. Donc là, on sait depuis que ces zones-là, on le sait même avant d'y être allé, ces zones-là sont plus jeunes que les zones qui ont beaucoup de cratères de grande taille. Donc intuitivement, on savait déjà que les zones à fort nombre de cratères par kilomètre carré étaient des zones anciennes, alors que les zones avec peu de cratères étaient des zones plus récentes dans l'histoire de la Lune. Et cette chronologie relative des phénomènes, on a pu la quantifier en ramenant de la Lune des échantillons que l'on a datés. Et quand on a daté les échantillons qui correspondaient aux zones où il y avait le plus de cratères, on a vu que c'était des terrains très vieux, les plus anciens que l'on connaisse, plus de 4 milliards d'années, et que les terrains les plus jeunes, les terrains qui avaient le moins de cratères étaient les terrains les plus jeunes. De là, on a compris que ce processus de choc était un processus qui, dans les parties les plus anciennes de fabrication de notre système solaire, était un processus très actif. Vous voyez, beaucoup de cratères, beaucoup de chocs dans les premiers instants du système solaire, les plus anciens, 4 à 4,5 milliards d'années, et un processus qui s'éteint au fur et à mesure de l'élaboration du système solaire pour arriver à des événements de moins en moins fréquents et de moins en moins violents. Donc, à partir de cette courbe traduit ce mécanisme intime de formation des planètes par un processus de choc et de collage. Et c'est ce processus que je vous propose de regarder maintenant ensemble, les chocs et la formation du système solaire. Il faut se souvenir que le système solaire, ça naît probablement d'un objet comme celui-ci, c'est-à-dire une étoile centrale entourée d'un disque de matière finement divisé qui va mûrir, qui va élaborer, par collage successif, on va le voir, un système solaire organisé. Alors, là, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais donc, imaginez qu'on est à peu près il y a 4,5 milliards d'années, on est dans une atmosphère poussiéreuse, gazeuse, froide. Les particules vont se rapprocher les unes des autres, se concentrer, pour finalement faire apparaître au cœur de ce nuage un soleil, une étoile qui va fabriquer de l'énergie. Puis tous les grains de poussière qui sont autour vont commencer à se coller les uns aux autres pour élaborer progressivement par collage, et on va l'étudier un peu plus en détail tout de suite, un système solaire organisé qui est parti de quelques poussières microscopiques pour fabriquer des objets qui ont une taille conséquente, comme la Terre, qui sont des objets solides et qui sont organisés en rotation, en orbite autour du Soleil. Donc, ce processus qui est rapidement reschématisé ici, c'est partir d'un nuage de gaz et de poussière froid, le comprimer, créer en son centre une étoile avec des poussières autour. Ces poussières tournant autour du Soleil vont rentrer en contact vont se rencontrer les unes les autres, et par un processus qu'on peut imager par le processus de la boule de neige, fabriquer des objets de plus en plus gros et organisés, c'est-à-dire un système où il n'y a plus de poussière ou plus beaucoup de poussière, et des planètes en rotation autour d'une étoile centrale. Alors, ce processus, il est compliqué. C'est un processus de collage entre des morceaux de tailles différentes qui vont d'abord se coller pour faire des petits blocs, puis des blocs de plus en plus gros, mais des blocs de plus en plus gros qui vont se rencontrer. C'est un processus pas très simple, qui est très chaotique. Ce que nous dit la physique de ce phénomène, c'est que Le premier stade, c'est de passer de poussière à ce qu'on appelle des planétésimaux, c'est-à-dire des petites entités planétaires. Et c'est un processus qui prend environ 10 000 ans. C'est un phénomène de collage qui, en 10 000 ans, va nous permettre de passer de particules de quelques micromètres à des particules de quelques centimètres. Puis, du centimètre au kilomètre, il va falloir commencer à regarder les choses un peu plus en détail parce que les objets vont se rentrer dedans. Et en se rentrant dedans, ils vont se casser les uns et les autres. Et donc, on va se retrouver dans une espèce de mécanisme antagoniste entre un processus de création, le collage, et un processus de destruction, le choc. Et quand on regarde cela, ça, c'est des simulations numériques qui ont été faites par Pierre Michel de l'Observatoire de Nice. Vous avez ici deux simulations qui vous montrent ce processus. Ici, à droite, par exemple, vous avez eu un choc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, qui a coupé un planétésimal en deux. Et vous voyez, donc, il a même un satellite en orbite qui fait des 8 entre les deux. Et donc, il faut imaginer que ça se passe comme ça. Notre système solaire, il va osciller entre un état où on va chercher à faire des objets de plus en plus gros, puis comme il y a de plus en plus de gros objets, ils vont se rentrer dedans et se casser les uns les autres, ici aussi, et vont se recoller, etc. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on aurait pu très bien rester dans un système comme ça, c'est-à-dire on n'aurait jamais élaboré, mais à un moment, des planètes de grosse taille, mais à un moment, le système, il a basculé, il a cessé d'être destructeur pour finalement élaborer des objets de plus en plus gros qui se sont stabilisés en orbite autour du Soleil. Pour se rapprocher un peu plus de nous, la Lune, on sait depuis très longtemps, ou en tout cas, on sait que la Lune a un lien de parenté avec la Terre, et ce lien de parenté, il est aussi lié à un processus cataclysmique de choc qui s'est produit il y a aussi environ 4,5 milliards d'années, dans les premiers instants de ce processus de collage. On est à la fin de l'élaboration des gros blocs qui sont les planètes. La Terre est presque finie, elle a presque atteint sa taille, lorsqu'elle rencontre, du moins lorsqu'elle est percutée, par un objet dont je vous parle ici, qui est un objet de la taille de Mars. Donc il y a 4,5 milliards d'années, la Terre est presque finie. Elle est encore chaude, vous voyez, elle est très volcanique à sa surface, probablement fondue à sa surface. Et voilà que arrive un objet de la taille de Mars. Donc c'est quand même un objet conséquent, plusieurs milliers de kilomètres, qui percute la Terre. Et c'est cette percussion qui va générer la Lune. Alors ce lien de parenté entre la Terre et la Lune, on l'a par des arguments chimiques, que je ne vais pas commenter longuement, qui sont en particulier des compositions de certains atomes, en particulier les isotopes de l'oxygène, qui montrent que la Lune se trouve sur une droite qui est la droite de la Terre, c'est-à-dire là où se trouvent toutes les roches de la Terre, et il y a très peu d'objets du système solaire qui se trouvent sur cette droite. Vous avez toutes les autres roches extraterrestres que l'on trouve, ne se retrouvent pas sur cette corrélation qui est ici, la droite de fractionnement terrestre. Donc le lien de parenté de la Lune, on l'a par ce genre d'observation. Mais il faut expliquer pourquoi la Lune a ce lien de parenté avec la Terre. Et l'hypothèse la plus simple, et que maintenant on simule, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que c'est ce choc qui fait que la Lune est comme la Terre, parce que les morceaux qui ont fabriqué la Lune sont des morceaux de Terre. Et voici le processus, on part donc de cette collision énorme, c'est vraiment une collision énorme, entre la Terre et une planète de la taille de Mars, qui met en orbite autour de la Terre, c'est un peu comme le système solaire au début, met des fragments de taille multiples en orbite autour de la Terre, et comme tout à l'heure pour la fabrication du système solaire, localement, on va retrouver le même mécanisme, donc un mécanisme successif de collage, choc, collage, etc., qui finalement, à un moment donné, va aboutir à vous devinez le premier embryon de Lune qui se forme. Ça, c'est des simulations numériques qui ont été faites par des collègues japonais, où vous voyez ici le premier embryon de Lune, quelques dizaines ou centaines de milliers d'années après le choc, qui se forme autour de la Terre. Vous avez toujours des blocs plus gros. On se demande d'ailleurs pourquoi ce n'est pas celui-là qui va donner la Lune, mais celui-là. Toujours est-il que c'est celui-là qui va donner la Lune. Au fur et à mesure, ça glane tout le matériel qui est en rotation ou en orbite autour de la Terre pour finalement arriver progressivement à collecter toute la matière. Il y en a qui revient sur la Terre, bien sûr. Il y en a aussi qui vient se coller à cet embryon de Lune pour finalement arriver à ce satellite naturel qui est le nôtre et qu'on appelle la Lune. Donc la Lune est bien réellement une fille de la Terre, mais c'est une fille de la Terre qui est née à l'issue d'un cataclysme énorme qui s'est produit il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années. Je continue mon voyage extraterrestre pour vous parler d'un autre phénomène extraordinaire qui est lié au choc. C'est le fait que les chocs nous permettent de retrouver à la surface de la Terre des morceaux de Lune, ça c'est, vous l'avez vu que c'est possible, et des morceaux de la planète Mars. Et je vais vous parler 30 secondes de cet extraordinaire voyage des météorites de Mars, qui sont des petits morceaux, pas plus gros que cela, quelques centimètres, qui ont fait un voyage depuis la planète Mars, ici, jusqu'à la Terre. Un voyage qui s'est passé de la manière suivante. Vous imaginez, il y a 15 millions d'années, un choc violent à la surface de Mars, qui fait donc un cratère. Ce cratère, il va se former, mais il y a des débris qui vont être éjectés de ce cratère. Ces débris sont des morceaux de Mars. Ces morceaux de Mars, s'ils ont une vitesse suffisante, la vitesse suffisante pour quitter l'attraction gravitationnelle de Mars, c'est 5 km par seconde. Si des blocs ont une vitesse supérieure à 5 km par seconde, ils partent, ils quittent l'attraction gravitationnelle de Mars et ils se retrouvent dans le système solaire en train de voyager, en particulier en direction de la Terre, mais aussi en direction des autres planètes. Et fortuitement, certains d'entre eux vont croiser l'orbite de la Terre. Et c'est un peu cette histoire que je vais vous raconter, parce qu'on peut la retrouver, cette histoire, juste en étudiant ces petits fragments de roches de quelques centimètres que nous avons la chance d'observer sur Terre. D'abord, le premier argument pour dire que ce sont des morceaux de Mars, ce n'est pas si simple que cela. Le meilleur argument que l'on ait, il y en a d'autres, mais je vous présente celui-là parce que c'est le plus parlant, c'est qu'à l'intérieur de ces roches, on trouve des zones de quelques dizaines de micromètres de taille, ce n'est pas très grand, à l'intérieur desquelles on a des morceaux de verre qui se sont formés pendant le choc et dans lesquels sont piégés des molécules de gaz. Ces molécules de gaz sont des molécules que l'on peut analyser avec les techniques modernes de laboratoire, comme on en a ici à l'école normale ou dans d'autres laboratoires. Et quand vous faites la composition chimique de ces gaz et que vous la comparez à toutes les atmosphères que vous connaissez dans le système solaire, ça ne ressemble pas à l'atmosphère de la Terre, parce qu'elle est particulière, ça ne correspond pas à l'atmosphère de Vénus, que l'on connaît bien aussi, et la seule atmosphère avec laquelle il y a un lien de parenté, et un lien de parenté extrêmement fort, parce que c'est exactement la même composition, c'est la composition chimique de l'atmosphère de Mars actuelle, qui a été mesurée par un certain nombre de robots qui ont été déposés à la surface de Mars. Donc voici probablement le plus bel argument, d'accord, cette corrélation 1 pour 1 entre l'atmosphère de Mars et l'atmosphère piégée dans ces météorites, qui nous disent qu'elles viennent de Mars. Retrouver l'histoire du voyage. Là, on est sûr que ça vient de Mars. Comment c'est arrivé jusque chez nous? Rappelez-vous, j'ai utilisé tout à l'heure le diamant en vous disant, si je vois du diamant dans une roche, je peux trouver la pression qui est liée au passage de l'onde de choc. Si j'ai la pression liée au passage de l'onde de choc, je retrouve la vitesse de l'impacteur, etc., etc. Si je connais le temps du choc, je retrouve la taille de l'impacteur. Si on fait cet exercice sur ces roches, voici une roche martienne. Les traces du choc, c'est ces petites vénules noires qui sont des zones où la pression est partout la même dans la roche choquée, mais où l'élévation de température est très élevée. Dans ces zones-là, localement, ici c'est très peu chaud, mais ici la température au moment de l'onde de choc est montée aussi haut que 2500 degrés. À ces températures-là, la matière se transforme, comme tout à l'heure le graphite en diamant. Ici, on a toujours ces petites poches, et vous observez ici, alors, c'est des cristaux qui font quelques micromètres, c'est des cristaux qui ne sont stables qu'à des pressions de l'ordre de 230 000 fois la pression atmosphérique, donc toujours mes 700 km de roche au-dessus de moi, et à peu près 2500 degrés. Et on peut calculer, à partir, on va dire, de la taille et de la composition chimique de ces petits cristaux, le temps qu'il a fallu pour qu'ils poussent. C'est comme les cristaux de sucre que vous mettez dans une solution, vous faites pousser à partir d'une solution sursaturée, il suffit de mettre un chronomètre et de voir combien de temps ils mettent pour pousser, vous avez le temps de la croissance. Ici, on peut retrouver ce temps de croissance de ces tout petits cristaux. Donc, Vous imaginez qu'ils sont tout petits, donc le temps ne doit pas être très long. Effectivement, le temps n'est pas très long. Ces cristaux-là se sont formés en 10 millisecondes. On a calculé que ça mettait entre 10 et 30 millisecondes pour fabriquer ces petits cristaux. Donc, si vous avez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, 10 millisecondes, si je connais maintenant la vitesse moyenne, si je prends une vitesse moyenne de choc, de vitesse moyenne d'astéroïdes pouvant taper Mars, quelque chose qui est entre, on va dire, de l'ordre, on prend la vitesse moyenne de l'ordre de 10 km par seconde, vous voyez que je peux retrouver la taille de l'impacteur. Eh bien, ces météorites sont partis de Mars, il y a à peu près 15 millions d'années, je vous le dirai tout à l'heure, à la suite d'un choc qui a duré entre 10 et 30 millisecondes, qui était dû à un impacteur qui faisait environ 100 à 300 mètres. Donc, elles viennent forcément d'un cratère sur Mars. Alors là, il faut multiplier, je me suis trompé, il faut multiplier par 10 un cratère entre 1000 et 3000 mètres de diamètre. Donc, des cratères entre 1000 et 3000 mètres de diamètre, il n'y en a pas beaucoup sur Mars. Il y en a 120 potentiels. Donc, on voit à peu près, on a maintenant une chance sur 120 de dire de quel cratère elle vient, alors qu'on était parti de quelque chose dont on ne savait rien. Donc, juste pour vous montrer le cheminement, rien qu'à partir de l'observation à une échelle de quelques micromètres, comment on peut refaire le film à l'envers d'un processus extraordinaire qui a eu lieu dans notre système solaire il y a 15 millions d'années. Le 15 millions d'années, il est obtenu comment ? C'est un processus de bronzage cosmique. Une météorite, quand elle quitte la surface d'une planète, elle est soumise au rayonnement solaire. Donc elle va être bombardée par des particules alpha en particulier, par des protons, par des neutrons. Ces protons et ces neutrons vont rentrer en contact avec les fragments de roche. Ces fragments de roche vont subir des réactions nucléaires à l'intérieur. On va fabriquer un certain nombre d'éléments et d'isotopes d'éléments particuliers dont la quantité ne dépend que du temps d'exposition au rayonnement solaire. Donc si vous comptez simplement les atomes de krypton, d'azote ou d'argon, vous avez le temps du voyage. Et ce temps de voyage pour les météorites de Mars, il est de 700 000 ans à 15 millions d'années, à peu près pour toutes celles qu'on connaît jusqu'à l'heure actuelle. Là, pour l'instant, on est resté dans le processus d'élaboration. On va envisager maintenant le processus de destruction. Je n'apprendrai à personne ici qu'il existe depuis le début des années 80 une théorie, une explication en tout cas, des extinctions massives d'espèces à la surface de la Terre, en particulier celle qui s'est produite il y a 65 millions d'années, Crétacé, qui voit disparaître un grand nombre d'espèces. Ce n'est pas la plus importante que la planète ait connue, hein, d'extinction en masse, mais c'est une phase d'extinction très rapide, c'est-à-dire en quelques millions d'années, disparaissent plein d'espèces vivantes à la surface de la Terre. Alvarez et son équipe dans les années 80 ont suggéré que c'était lié à un processus de choc. Quels étaient leurs arguments ? Le premier argument était que tout autour de la Terre, à cette limite que l'on trouve dans les roches à 65 millions d'années, on trouve un liseré bien spécifique dans lequel on trouve des traces anormalement élevées d'un métal noble qui s'appelle l'iridium. Et l'iridium est un métal que l'on trouve en particulier de manière très abondante dans les astéroïdes et dans les météorites. Ils ont aussi trouvé dans ce niveau bien particulier des petites gouttelettes de verre qui font penser à des éjectats de magma qui ont subi un vol balistique dans l'atmosphère. Ils ont aussi trouvé des minéraux qui portent le passage d'une onde de choc, en particulier ces petits cristaux de quartz qui présentent ces textures bien particulières. Cet événement, il est enregistré sur toute la planète. Ce n'est pas enregistré en un endroit précis, c'est quelque chose qui est enregistré à l'échelle de toute notre planète. Le responsable, c'est ce cratère, un choc avec un astéroïde de l'ordre de 10 km, qui a produit des éjectats un peu partout. Ici, c'est une simulation, je vais la recommencer parce qu'elle va un peu vite. Là. Donc voilà, ouais, je ne vais pas recommencer. Ça, c'est la simulation numérique de la dispersion des éjectats incandescents. Donc ces petites, vous imaginez, il y a un choc énorme, une météorite de 10 km fait un trou de 100 km, toute la matière est vaporisée, qui va former le trou. Cette matière va être expulsée dans les éjectats. Donc on va avoir des petites billes qui vont être montées à des températures de plusieurs centaines de degrés, 1000, 1500 degrés, qui vont voyager dans l'atmosphère et qui vont être envoyées à des distances colossales. les distances colossales, les voilà. Donc le choc a lieu là, et voici le nuage de dispersion de ces éjectats incandescents. Donc vous imaginez que vous lancez des allumettes, d'accord, vous lancez des allumettes et vous les faites retomber allumées à la surface du globe, et donc vous sentez bien que ça va produire des incendies, incendies dont on retrouve la trace d'ailleurs dans ces limites entre le secondaire et le tertiaire. Et de là naît l'explication de ce qu'on a appelé le scénario de l'hiver nucléaire, parce que ça correspond tout à fait à un scénario d'hiver nucléaire. Le choc, qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas le choc, c'est pas la météorite qui tombe sur des dinosaures ou sur des espèces animales qui va les tuer, c'est la modification de l'environnement planétaire qui est liée au choc. Et la modification de l'environnement planétaire, c'est une modification qui se passe sur quelques heures, mais qui va durer des siècles. Le premier effet, c'est ce retour des éjectats incandescents qui vont mettre le feu, en fait, à la planète, en tout cas à la végétation, et qui vont conduire à une augmentation de température, en particulier liée au feu de forêt. Cette phase étant passée, qui dure quelques jours, probablement, l'ordre de grandeur est le jour, après, vous avez dans l'atmosphère des particules en quantité impressionnante. Ces particules, elles vont obscurcir la surface de la Terre, elles vont faire écran entre le Soleil et la surface de la Terre, et donc refroidir de la surface de la Terre. Donc vous allez passer d'une augmentation de température de quelques heures à un processus de refroidissement de la planète qui est lié à l'obscurité, au fait qu'on bloque le rayonnement solaire qui arrive à la surface de la Terre, phénomène qui peut durer des dizaines d'années. Ça va dépendre en particulier de l'impact, de la taille de l'astéroïde impacteur. Puis finalement, vous avez mis tellement de choses dans l'atmosphère, que, en particulier du gaz carbonique, qu'après, vous allez avoir un effet au long terme, qui va être un effet de serre augmenté par rapport à l'effet de serre avant le choc. Donc on voit bien que les chocs, quand ils sont importants, ont un impact planétaire. Alors, et la suite ? Donc là, on avait fait notre première catastrophe. Maintenant, il paraît qu'il y a un astéroïde qui doit nous croiser en 2028. Alors, je ne sais pas où ils en sont, mais il paraît qu'il passera assez loin, 700 000 à 900 000 kilomètres. Mais à partir de là, 700 000 à 900 kilomètres, ce n'est pas très loin. C'est un peu plus de deux fois la distance Terre-Lune. Donc, c'est un astéroïde qui peut nous croiser. Vous voyez que le croisement avec un astéroïde, on a vu Tunguska au début de cet exposé. C'est quand même quelque chose qui est historique, qu'on a vu. C'est 50 mètres, 100 mètres, Barringer, c'est Météor Cratère, c'est aux États-Unis, c'est ce magnifique cratère. Sa périodicité, c'est un siècle à cinq siècles d'avoir un objet de 100 mètres. On commence à s'affoler, en gros, vers 50 mètres. D'accord ? À partir de 50 mètres de taille, ça commence à faire des effets. Un kilomètre, il y en a un tous les millions d'années. Il y en a un en France, mais qui est très vieux, qui s'appelle Roche-Chouart, qui est dans le Limousin. 5 kilomètres, c'est tous les 10 ou 50 millions d'années. Popigai, c'est en Sibérie. 10 km, c'est ce que je viens de vous présenter. C'est ce fameux cratère de Chicxulub qui se trouve au large du Mexique. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve ? En fait, on retrouve la courbe de la Lune, là. D'accord ? On retrouve la courbe de la Lune, c'est-à-dire les impacts de grosse taille, probablement, on les a tous évités pour l'instant, forcément, on est là. Mais des autres, de 500 mètres, 1 km, ou 10 km, c'est quelque chose qui, statistiquement, est possible. C'est tellement possible qu'on commence à se préoccuper de ce problème. Alors, vous avez tous vu Armageddon, Deep Impact, etc. Alors, outre le fait qu'il y a du son dans ces chocs planétaires, alors qu'il ne devrait pas y en avoir, on verra ça tout à l'heure avec l'artiste, il y a ici une réelle prise de conscience, en tout cas des astronomes depuis des dizaines d'années, de dire qu'il y a un risque potentiel. Alors, je ne suis pas en train d'essayer de vous dire qu'il faut faire... Faut arrêter tout demain matin, mais juste ici, cette courbe, c'est la courbe d'observation des astéroïdes. Alors, les astéroïdes, il y en a un peu partout. Je vous montrerai la carte d'encombrement du système solaire tout à l'heure. Voici tous ceux qui ont, on va dire, une chance d'arriver dans la proximité de la Terre. Vous voyez qu'en fonction du temps d'observation, depuis qu'on les observe, on les voit. C'est ça que ça veut dire, ce dessin, c'est tout. Celui-là, il montre que c'est difficile de les voir. Ça, c'est deux photos qui vous montrent ici un astéroïde, mais c'est le seul truc qui a bougé. Il est là, donc c'est pas quelque chose de facile à trouver. Et puis voilà ce qui risque de, un jour, avoir potentiellement un risque de croisement avec la Terre. C'est donc des astéroïdes qui ont entre 200 et 5 km de diamètre, entre 200 mètres et 5 km de diamètre. Vous voyez qu'il y a une population de plusieurs centaines d'objets qui sont potentiellement susceptibles de croiser notre planète. Et ça, c'est le destin, ça sera forcément comme ça. Parce que voilà la carte d'encombrement du système solaire, la carte que je vous montre ici, c'est le Soleil, l'orbite de Mercure, l'orbite de Vénus, l'orbite de la Terre, l'orbite de Mars, et tous les points rouges et jaunes, c'est des astéroïdes. Alors, je vous rappelle quand même que la distance entre ici et ici, c'est 150 millions de kilomètres, donc ils ne sont pas tous au voisinage de la Terre, mais il y en a deux ou trois qui ont des probabilités non nulles dans les siècles ou les millions d'années qui viennent de croiser l'orbite de la Terre et de probablement refaire ce que l'on a vu à Tunguska ou ce que l'on a vu dans le cratère du Chicxulub. Voilà, je m'arrête ici.